Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 janvier et évidemment au menu de cette émission, on va parler du premier roman d'Olivier Chaillot, qui a écrit donc une histoire d'amour, une histoire de famille, une histoire de secret aussi, et pas besoin de rayer deux mentions inutiles dans la liste que je viens de vous faire. On va retrouver aussi la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho. On parlera hausse de salaire, certaines donc observées dans certains secteurs. On va justement expliquer peut-être un petit peu pourquoi. Et puis, le troisième épisode de notre feuilleton autour du SNU, le Service National Universel, avec le témoignage d'une jeune directement concernée, Zoé, puisqu'elle y a participé l'année dernière, en 2021. Mais d'abord, évidemment, pas de retour en 2021, mais un point sur l'actualité aujourd'hui, mercredi 5 janvier 2022. Un bâtiment de ferme détruit par le feu dans le Nord Mayenne cette nuit. Ça s'est passé vers 1h du matin du côté de la commune du Horp, au lieu dit La Prioulet. Dans le bâtiment, parti en fumée, 70 tonnes de paille, 600 kg d'ammonitrate et 1 tonne 8 de chaux. Aucune trace de pollution n'a été constatée par les pompiers qui viennent d'éteindre les flammes en fin de matinée. Évidemment, une grande page Covid aussi avec les chiffres de l'épidémie qui explosent dans la région, avec des taux d'incidence qui dépassent les 1200 cas pour 100 000 habitants en Mayenne. Ça représente plus d'1,2% de la population et c'est presque trois fois plus que la semaine dernière. 55 personnes sont hospitalisées dans le département. Dans ce contexte, le centre hospitalier du Haut-Anjou adopte de nouvelles mesures. Les visites sont suspendues à l'EHPAD des Marronniers à Château-Gontier, sauf sur avis médical ou en situation de fin de vie. Suspension des visites maintenues aussi pour les hôpitaux de Château-Gontier et de Segré, excepté pour le service maternité, où là, une visite par jour est autorisée pour les papas et une fois par semaine pour les fratries. Une trentaine de classes sans professeurs d'école. La rentrée lundi n'a pas été simple en Mayenne avec l'absence d'une trentaine d'enseignants. Mais selon le directeur académique Denis Valex, la situation s'est améliorée hier et nous procédons au recrutement de contractuels pour faire face à d'éventuels autres problèmes. Pendant ce temps-là, l'association ODA 53, entendue à l'Assemblée nationale ce matin, c'est une première aujourd'hui pour l'association de défense des usagers de santé publique. Son président Pascal Grandet défend à l'Assemblée nationale la proposition de loi déposée par le député socialiste Guillaume Garot pour lutter contre la désertification médicale, avec comme mesure phare l'obligation pour les jeunes médecins de passer 2 ans dans une zone sous-dotée. Une cagnotte pour aider la famille victime de l'incendie à Cossé-le-Vivien. Ils ont perdu leur maison le 24 décembre dernier et toute la famille est relogée chez des proches. Mais pour les aider à retrouver une location, une cagnotte a été mise en place sur Litchi, intitulée « Don pour un relogement ». Comme l'origine de l'incendie est toujours inconnue, la famille a porté plainte contre X. Une enquête est en cours. Et puis une question, êtes-vous gêné par le bruit à Château-Gontier ? Une consultation vient d'être lancée par la ville sur son site internet et à l'hôtel de ville, et ce jusqu'au 3 mars. La ville qui élaborera ensuite une cartographie du bruit, puis mettra en œuvre un plan de prévention du bruit dans l'environnement, avec différentes mesures pour chercher à réduire les nuisances sonores. On va parler donc de ce nouveau roman du Mayennais Olivier Chaillot, mais ce sera ça dans 3 minutes, juste après avoir écouté My Favorite Game de Benny Sings.
To me, and that's how life's gonna work out.
My favorite game, Benny Sings. Jusqu'à la dernière note dans l'agité du local sur l'autre radio. Et évidemment, comme promis, on va parler de ce nouveau roman écrit par un Mayennais. Une fierté pour lui après 4 ans d'écriture. Le titre de ce roman, Quand les papillons se mirent à voler, écrit donc par le Mayennais Olivier Chaillot. Une histoire d'amour, de secrets de famille, en lien avec le Japon, avec des notes d'humour. Voilà un petit aperçu de ce qui vous attend à sa lecture. Sorti il y a quelques mois, nous avons joint son auteur qui revient sur cette belle aventure.
Je m'appelle Olivier Chaillot, j'ai 47 ans. Je suis marié, père de 2 enfants, dont une petite fille là, qui a tout juste 1 an. Puis j'habite à Laval maintenant depuis près de 16 ans. Je suis originaire de Nantes. Puis après, pour des raisons professionnelles, je suis arrivé ici en Mayenne.
Et donc, auteur de ce tout premier livre, Quand les papillons se mirent à voler, qui est donc paru il y a quelques mois déjà, comment est née cette envie, peut-être tout simplement, d'écrire ? Est-ce que c'était quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps déjà ?
Alors, non, pas spécialement. C'est ma femme qui me reconnaissait, on va dire, certaines qualités d'écriture et qui m'a incité à essayer d'écrire quelque chose. Donc, je l'ai écouté et voilà, j'ai commencé à écrire quelques lignes par-ci par-là. Le sujet, lui, par contre, m'est apparu assez naturellement, puisque dans notre famille, nous gardons précieusement une photo de notre arrière-grand-père à côté de sa mère japonaise. Et donc, cette photo qui est bien réelle et qui figure d'ailleurs à la fin du roman, m'a servi de fil directeur pour porter mon intrigue.
Dès le début, ça a été vraiment le point de départ, cette photo, où vous vous êtes dit, bon, on va voir. Enfin, est-ce que vous aviez déjà cette idée bien précise en tête ou ça s'est fait au fur et à mesure de vos recherches ?
Ça a été vraiment l'idée principale. Après, tout s'est construit au fil du temps. J'avais l'idée assez précise du fil directeur. Mais disons qu'après, tout autour, j'ai romancé l'histoire. Alors c'est vrai que le personnage principal là, qui s'appelle Max, en fait, au début du roman, on le suit un petit peu dans sa vie amoureuse, qui est assez chaotique. Mais disons que ce personnage principal, à un moment donné, suite à une rupture un peu douloureuse, il fait le choix de se questionner et donc de questionner son histoire familiale plutôt que, on va dire, d'accuser l'autre comme il serait un petit peu plus simple de le faire. Donc voilà, ça part sur un peu l'idée d'une comédie romantique, mais donc avec en toile de fond toujours ce cas de famille. C'est un roman qui interroge le sujet de la relation amoureuse, qui est un thème finalement assez universel, hein, puisqu'on y est tous confrontés à peu près à un moment ou à un autre de sa vie. Et donc, ce thème, à travers un peu le prisme des transmissions intergénérationnelles, alors sur un ton que j'ai voulu assez léger, assez humoristique, enfin, du moins je l'espère, mais c'est aussi un roman qui contient des messages beaucoup plus profonds.
Comme quoi, par exemple ?
Alors, c'est avant tout une histoire sur la quête identitaire, sur la quête de soi, sur les relations parents-enfants, les relations hommes-femmes, sur la relation à l'étranger aussi, puisque à un moment donné, alors je veux pas spoiler le roman, mais il va partir au Japon. Et puis plus largement, ça questionne aussi les croyances, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. J'essaye de montrer un petit peu que ces croyances participent de la construction identitaire, du rapport au monde, du rapport à soi, et à la psychologie.
Forcément, j'imagine que vous disiez que c'est un thème qui touche tout le monde. Est-ce que vous vous êtes inspiré aussi du quotidien, peut-être des choses vécues par vous ou par d'autres pour cette histoire ? Même si déjà, il y a l'histoire de la photo qui est vraiment le point de départ.
Alors, oui, bien sûr. Alors, je crois que d'ailleurs, beaucoup d'auteurs s'inspirent un petit peu, évidemment, de leur quotidien, en tout cas pour écrire leur premier roman, donc ce qui a été mon cas. C'est vrai que, pour ceux qui me connaissent, ils retrouveront dans mon roman un certain nombre de situations ou de faits dont ils savent que ce sont des choses vécues. Maintenant, ça reste quand même des situations qui sont très très romancées. Mais oui, ça s'appuie un petit peu aussi sur ma vie personnelle, ouais.
Est-ce que c'est un travail qui a pris beaucoup de temps de passer vraiment là, il y avait cette idée en tête en tout cas, de vraiment le travail d'écriture et de réécriture, j'imagine, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps ou pas forcément ?
Oui, beaucoup de temps, bah, parce que j'ai une vie professionnelle à côté, bien sûr. Donc, ça m'a pris à peu près 4 ans d'écriture. Donc, principalement, bah, le soir, quand tout le monde dormait, voilà, une heure par-ci, 2 heures par-là. Un petit peu le week-end, pendant les vacances, avec bah, de longues périodes aussi sans écriture, parce que bah, pris dans le quotidien, pas forcément envie d'écrire, voilà. Donc c'est vrai que sur la durée, ça paraît long. Après, c'est quelque chose que... Enfin, c'est un roman que j'ai écrit, j'ai envie de dire, assez facilement. Enfin, les idées, en tout cas, me venaient assez vite, les mots aussi. Après, c'est un roman que j'ai... Enfin, qui ne s'écrit pas, mais je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, j'imagine... je ne l'ai pas écrit dans l'ordre chronologique, on va dire. C'est des chapitres par-ci, par-là, pas forcément les uns à la suite des autres. Et puis après, bah, tout s'organise. Et puis, bah, c'est en écrivant aussi que les idées viennent. Donc oui, ça a été un travail assez long, ouais. Que j'ai terminé en octobre 2020. Puis après, bah, il y a eu différents confinements, donc c'était pas forcément évident pour le faire paraître. Puisque donc c'est un roman qui est paru en auto-édition, hein. Ça veut dire que physiquement, il n'est présent nulle part. Par contre, on peut le commander partout, mais vraiment partout, hein, que ce soit dans les librairies spécialisées, que ce soit dans les commerces plus traditionnels. Mais c'est que on peut le trouver qu'en commande.
Est-ce que vous vous êtes fait aider peut-être pour la réécriture, par exemple, ou pour avoir un regard extérieur ? Parce que quand on passe 4 ans sur une écriture, c'est long, 4 ans. Et donc, c'est peut-être parfois un peu difficile d'avoir un regard extérieur sur le manuscrit final.
C'est amusant un peu comme question, parce qu'en fait, moi, pendant ces 4 années, j'en ai parlé absolument à personne. Il n'y a que ma femme qui était au courant. Tout simplement parce que je ne voulais pas ressentir de pression extérieure, en fait, à l'écriture de ce roman. Je n'avais pas envie qu'on me dise, mais t'en es où ? Tu n'arriveras jamais au bout. Donc voilà, j'ai caché ce projet secret. Et quand je l'ai terminé, je l'ai fait lire à quelques personnes de mon entourage. Mais pas tant que ça finalement. Le travail de relecture, bah oui, ces personnes-là m'ont signalé, voilà, faut peut-être par-ci par-là, de la ponctuation, ce genre de choses, ou des incohérences qui pouvaient rester. Mais j'ai pas fait appel, si vous voulez, à des correcteurs professionnels. Je dirais que j'ai commencé ma communication à partir de septembre, même peut-être début octobre, notamment via Instagram surtout. C'est aussi comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré beaucoup de personnes en auto-édition également, et donc j'ai pu échanger, avoir quelques conseils. C'est vraiment très intéressant.
Grâce à ce compte Instagram, vous avez pu aussi avoir des retours de lecteurs. Alors, de lecteurs plus professionnels, du coup, si c'est d'autres auteurs, d'autres écrivains, mais aussi des lecteurs lambda, entre guillemets. Et si oui, si vous avez ces retours, quels sont-ils en général à la lecture de ce roman ?
Oui, je commence à avoir pas mal de retours. Alors, j'en ai évidemment au niveau perso. Donc, bon, on se pose toujours la question un peu d'objectivité, évidemment. Mais de personnes, évidemment, que je ne connais pas du tout. Oui, j'ai des retours qui sont plutôt très bons, d'ailleurs. On me dit que c'est un roman qui provoque beaucoup d'émotions, qui va du rire aux larmes, dont la lecture est assez plaisante et fluide. C'est vrai que c'est un livre où j'ai essayé de réunir un petit peu différents sentiments, comme l'humour, bah, l'amour, la fraternité, les voyages, enfin, tout ce qu'il faut pour essayer de passer un bon moment. Bah, c'est aussi un roman qui est finalement assez féministe et qui tord pas mal le cou au machisme et au vieux relent du patriarcat. Donc oui, j'ai pas mal de retours. Et puis j'ai la chance, je me suis inscrit sur le concours Femme Actuelle 2022. Et pour un premier roman, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Donc bon, même si je ne gagne pas, voilà, c'est pour moi une preuve un petit peu quand même de la qualité de mon travail.
Est-ce que ça donne envie de reprendre la plume pour en écrire un deuxième déjà ? Ou c'est pas forcément dans les cartons ?
Alors, c'est pas dans les cartons parce que, bah, comme je le disais en préambule, j'ai une petite fille d'1 an donc, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais oui, j'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées, en tout cas, oui, pour poursuivre l'aventure. Ouais.
Poursuivre l'aventure, donc ça pourrait être en lien avec ce premier roman?
Ça pourrait, oui, ça pourrait. J'ai une petite idée de quelque chose, ouais.
C'est vrai que vous l'avez dit, ça vous prend du temps dans une vie déjà bien remplie. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, ou qu'est-ce que ça vous a apporté, en tout cas, ce projet et cette écriture?
Alors, c'est vrai qu'au point de départ, j'ai eu un petit peu peur parce que je savais par avance que c'était un travail de longue haleine. Puis, j'étais pas forcément confiant sur mon écriture, tout simplement. Hein. Et puis, finalement, j'ai pris énormément de plaisir à écrire. Voilà, tout simplement. Donc, ça m'a apporté, je dirais, un petit peu les mêmes émotions, finalement, que les lecteurs me retournent. Ça m'est arrivé, évidemment, à beaucoup de moments, de rigoler tout seul devant devant mon écriture, avoir aussi beaucoup d'émotions. Donc, voilà, j'entends parfois des gens qui évoquent le fait qu'écrire est un peu thérapeutique. Bon, ça n'a pas été mon cas. Enfin, en tout cas, c'était pas l'objet recherché. Non, c'est simplement vraiment beaucoup de plaisir à raconter une histoire. Voilà, et à essayer de la partager avec de futurs lecteurs.
Et peut-être votre fille, quand elle sera un peu plus grande? Bon, là, j'imagine qu'un an, c'est encore un petit peu jeune. Hein.
Oui, alors j'ai un petit garçon aussi qui a bientôt 10 ans. C'est vrai que, quelque part, c'est aussi leur laisser une trace, hein, toute cette histoire un peu de famille. Donc oui, c'est aussi un plaisir personnel de ce point de vue-là. Oui. Je serai en dédicace à Cultura Saint-Berthevin, samedi 22 janvier, toute la journée. Et puis, je voulais en profiter quand même aussi pour remercier, si c'est possible, un certain nombre de personnes, différents auteurs que j'ai pu rencontrer sur Instagram, qui, comme moi, sont en auto-édition, mais avec qui j'ai commencé à nouer des liens, comme Serena, Cécile, Eva, Aurélie. Puis des personnes aussi beaucoup plus connues, qui ont déjà largement fait leur preuve, comme Laure Manel ou Anne-Gaëlle Hulon, qui sont des personnes vraiment très simples avec qui on peut échanger. Les commerçants lavalloises aussi, parce que j'ai pris le temps de déposer plein de petites cartes de visite à l'effigie de mon roman, et elles ont vraiment bien joué le jeu, donc vraiment je les remercie énormément pour ça. Mes collègues de travail à la mission locale qui ont fortement participé au lancement de mon roman, et puis bien sûr ma femme.
Roman, oui, comme vous disiez, qu'on peut trouver un peu partout, mais bien sur commande, c'est ça?
Oui, voilà, oui, okay. Sur commande, oui.
Sur commande auprès de vos libraires préférés. Et pour rencontrer Olivier Chaillot, rendez-vous donc toute la journée du 22 janvier lors de sa séance de dédicace. Ce sera à Saint-Berthevin au magasin Cultura. Une petite pause en musique avec The Kills Siberian Nights et on revient juste après avec la chronique Un autre écho de l'écho.
Seven seas. Is that too?
C'était The Kills avec Siberian Nights dans l'agité du local sur l'autre radio. Et puis pour cette émission, je suis ici seule au studio de Château-Gontier, mais pas vraiment toute seule hein, pour l'animer et pour la préparer, puisqu'on retrouve à distance dans le studio de Laval Soizic. Bonjour Soizic, je suis très contente de vous retrouver pour cette première chronique de l'année 2022 avec au moins une bonne nouvelle.
Eh oui, bonjour Marie, et meilleurs vœux aussi à vous pour cette nouvelle année. Et des vœux, vous savez bien que ça ne manque pas, hein. Entre la fin de cette maudite pandémie, la prise de conscience de nos décideurs, j'en bafouille, économiques et politiques de l'urgence climatique, l'apaisement et le retour de l'intelligence dans la campagne électorale et les propos politiques, j'en passe. Mais il est un vœu qui me tient particulièrement à cœur. C'est la poursuite de ce nouveau rapport de force sur le marché du travail, celui qui débouche sur une augmentation des salaires pour bon nombre de professions.
En effet, la presse parle souvent de ces hausses de salaires, parfois spectaculaires, auxquelles, il faut bien le dire, nous ne sommes pas habitués. Alors comment les économistes peuvent-ils expliquer cela ?
Eh bien, dans la théorie économique standard néoclassique, c'est-à-dire celle à laquelle adhèrent corps et âme les politiques des pays développés, le salaire correspond, attention, à la productivité marginale du travailleur. Autrement dit, le salaire équivaut à la valeur de ce qu'un travailleur produit. Si par exemple, vous rapportez 2000 euros à votre employeur, Marie, eh bien, vous ne pouvez pas escompter que l'autre radio vous paye plus de ces 2000 euros, sans quoi l'autre radio courrait à sa perte, ce qui semble parfaitement évident. Alors, c'est aussi cela qui justifie les faibles salaires des travailleurs peu qualifiés, qui finalement ne rapportent pas beaucoup. Et c'est cela qui justifie également les 2 millions d'euros mensuels des joueurs de foot, puisqu'ils traînent derrière eux, dit-on, des milliards de business. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, à ce jour jamais démontrée, mais bon. Et pourtant, il y a un biais dans cette histoire, plus précisément dans l'hypothèse de base. Parce qu'en effet, Marie, comment calculer cette fameuse productivité marginale du travail ? Comment calculer exactement la valeur de ce que rapporte une infirmière dans un hôpital ? La valeur d'un ouvrier spécialisé chez Renault ? La valeur d'un acteur lorsqu'il tourne dans un film qualifié de navet à l'unanimité ? Un joueur de foot de seconde zone rapporte-t-il effectivement plusieurs millions par an ? Eh bien, la réponse, c'est non. En fait, si on comprend bien intuitivement que de fortes compétences permettent d'accroître la productivité d'un travailleur, la mesure de celle-ci reste compliquée.
Alors, si je comprends bien, vous voulez dire qu'en réalité, le salaire dépend aussi de facteurs beaucoup moins comptables.
Eh oui, tout à fait. Depuis la fin des années 70, choc pétrolier oblige, ce sont les employeurs qui ont dicté les conditions de rémunération. L'apparition du chômage de masse les a mis en position de ce qu'on appelle en économie faiseur de prix, price maker, le salaire n'étant que le prix du travail. Durant 40 ans, la logique a été celle de la modération salariale pour diminuer les coûts de production et par ricochet les prix et rester ainsi compétitif. Et à cela, n'y avait-il, paraît-il, aucune autre alternative. Mais aujourd'hui, changement de programme. Pandémie rime avec pénurie. Et pénurie de travail aussi. Trois rimes riches. Selon Pôle emploi, plus de 7 établissements sur 10 ayant cherché à recruter déclarent avoir rencontré des difficultés de recrutement. Du coup, selon la DARES, une émanation du ministère de l'Emploi, un établissement sur 3 ayant cherché à recruter dit avoir augmenté la rémunération proposée. Et un autre tiers déclare avoir proposé de meilleures conditions de travail. Selon le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, 57 branches négocient actuellement des augmentations de salaire. La pénurie de main-d'œuvre rebat toutes les cartes. En un tournement, les salaires se mettent à augmenter. Pour ne citer que deux cas, le SMIC hôtelier a augmenté de 16% et les salariés de Leroy Merlin vont gagner 70 euros de plus par mois.
Les syndicats ont donc retrouvé de leur superbe sur ce coup-là.
Oui, bien sûr, notamment pour parler au nom des salariés les moins bien armés en négociation ou dans les petites entreprises. Mais ce qui est incroyable, c'est que les salariés se débrouillent également très bien tout seuls. En effet, grâce à une transparence accrue sur les salaires, ils comparent leurs salaires avec ceux des autres entreprises et mettent leur propre entreprise sous pression. Ils pensent « ou je suis payé comme à la concurrence, ou je démissionne ». pour décrocher une augmentation. Certains, surtout des jeunes, feignent même de quitter leur entreprise. Ils passent quelques entretiens et reviennent avec une proposition de salaire bien plus alléchante. S'ils savent que leur hiérarchie est satisfaite de leur performance, ils savent aussi qu'elle ne devrait pas les laisser partir avec le risque de peiner à les remplacer. Finalement, Marie, on a l'impression d'un retour aux 30 glorieuses. Et contrairement à ce qu'affirme le dogme économique néolibéral, salaire et conditions de travail ne relèvent donc pas simplement d'un calcul économique rationnel, mais également, voire en grande partie, des négociations et d'un rapport de force. Favorable aux employeurs depuis 40 ans, ce rapport de force s'est inversé et devient une force pour les salariés. Et cela, je vous prie de croire que ça décontenance plus d'un employeur qui se voit aujourd'hui imposer salaire et conditions de travail. Ils avaient perdu l'habitude. Alors oui, pour cette nouvelle année, je reformule ce souhait que les salaires continuent d'augmenter.
Et oui, un souhait évidemment qu'on va aussi souhaiter. Alors, ça fait beaucoup de fois souhaiter. Merci en tout cas, Swazik. Et en plus, on accueille une nouvelle personne, Andy, qui est aussi au studio de Laval avec donc le feuilleton du troisième épisode ce mercredi. On le rappelle, plus d'une centaine de jeunes Mayennais ont déjà participé au SNU.
Et oui, Marie, le service national universel pour les 15-17 ans. Une nouvelle session a lieu en février et c'est le dernier jour pour s'inscrire. Ainsi, une autre aura lieu au mois de juin-juillet, avec des inscriptions possibles jusqu'en mars. Et parmi cette centaine de jeunes participants, Zoé Courcel, elle a fait partie de la session 2021, un engagement auquel elle tenait, permis par une communication au sein de son lycée et le bouche à oreille.
J'ai d'abord eu l'information par le lycée, et ensuite j'ai aussi un ami qui avait participé au SNU l'année précédente, qui n'avait pas pu faire le séjour de cohésion, mais je trouvais que tout ce qui en découlait de sa mission d'intérêt général et des valeurs qu'il avait apprises, je trouvais ça super intéressant. J'avais pas vraiment d'attente parce que je savais pas trop à quoi, vers quoi j'allais. Je savais juste que j'allais découvrir plein de choses, faire de nouvelles rencontres. Et voilà, j'avais envie de me lancer dans l'aventure.
Une aventure qui a donc démarré l'été dernier avec le séjour de cohésion à Château-Gontier. Première étape qui a durablement marqué Zoé.
Déjà, je me suis fait beaucoup d'amis et en plus, j'ai confirmé des choses. Je suis devenue plus autonome et j'ai aussi découvert le milieu militaire qui est super intéressant. On a fait beaucoup de choses. On a fait pas mal de sport. Donc le matin, il y avait le réveil musculaire. On a aussi rencontré des intervenants. Donc des militaires, des pompiers, des gendarmes, des personnes des Francas, de la Banque de France, plein de choses comme ça.
Un programme complet pour ces 12 jours qui se sont poursuivis par une mission d'intérêt général choisie par chacun des participants.
Je l'ai fait fin juin, début juillet et j'étais à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée dans un centre de colonie. Maintenant, je suis toujours au lycée et j'essaie de trouver des missions d'intérêt général à la suite du SNU, comme un forum auquel j'ai participé ou des choses comme ça.
Donc, tu t'es engagée dans une association ?
C'est pas vraiment rapport avec le SNU, mais maintenant, oui, je suis dans une association pour aider les autres.
Est-ce que cela t'a donné des idées d'orientation ?
J'avais déjà des idées avant ça, mais ça m'a aussi aidé, ça m'a aiguillé vers le droit et tout ça.
Tu le conseillerais à d'autres jeunes, du coup ?
Oui, si on a envie de le faire, il faut le faire, parce que c'est vraiment une super expérience.
Et sa maman est du même avis, d'un point de vue différent, bien sûr. Vous l'entendrez dans le 4e épisode, demain.
Et merci beaucoup, Andy, pour ce 3e épisode de notre feuilleton autour du service national universel qui se poursuit évidemment au moins jusqu'à demain. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce mercredi. Restez avec nous évidemment puisque les émissions, elles, se poursuivent. À 19h, il y aura Novorama, puis à 21h, Chaosphère sous le signe du space rock et du rock progressif. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission L'Agité du local. Je vous souhaite une très bonne journée.